France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, un drôle de bonhomme étonnait tout le monde à Athènes, un homme très connu.
Salut-pied ! Silène ! Bouilleux de philosophe ! Racaille sans scrupule !
Son nom était Socrate. Il était paradoxal, surprenant, et ne faisait rien comme les autres.
Alors, Socrate, on t'a traité de bouilleux !
Ah, à vrai dire, je ne porte pas les habits d'un prince, et j'ai du ventre. Je devrais me mettre à la danse pour conserver ma ligne.
On a dit qu'il n'était vraiment pas beau, qu'il ressemblait à un satyre, un peu rabougri, avec un nez camus et des yeux protubérants, pas gracieux et plutôt grotesque. Mais Socrate était tellement habile en parole et tellement inattendu qu'il pouvait réfuter les évidences et démontrer que ce qui passait pour des défauts physiques, le nez camus et les yeux exorbités, était au contraire le summum de la beauté.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Invité à un banquet chez des gens très chics, il propose à un jeune et beau blanc-bec, nommé Critobule, Critoboulos, de participer contre lui à un concours de beauté. Ce jeune homme, Critobule, était d'une beauté parfaite. Yeux bien enfoncés, nez grec, bien droit. Socrate l'attaque sur la question de la beauté des yeux, qui chez Socrate sont protubérants. Xénophon, un des nombreux élèves de Socrate, raconte la scène.
Sais-tu donc, Critobule, pourquoi nous avons besoin des yeux ?
C'est évidemment pour voir.
À ce compte, mes yeux seraient déjà plus beaux que les tiens.
Comment donc cela ?
C'est que tes yeux voient seulement droit devant eux, tandis que les miens voient aussi de côté puisqu'ils sont à fleur de tête.
Alors d'après toi, de tous les animaux, c'est l'écrevisse qui a les plus beaux yeux ?
Assurément, car ses yeux sont aussi les plus puissants.
Puis vient la question du nez, que Socrate avait retroussé. Cette fois, c'est Critobule, sûr de lui, qui attaque.
Bien, mais voyons le nez. Lequel, Socrate, est le plus beau ? Le tien ? Ou le mien ?
Le mien, à mon avis. Si du moins c'est pour sentir que les dieux nous ont donné des nez. Tes narines, en effet, Critobule, regardent vers la terre. Les miennes sont retroussées, de manière à capter les odeurs de partout.
Mais comment un nez camus serait plus beau qu'un nez droit ?
Parce qu'il ne fait pas barrière, mais permet aux yeux de voir sur le champ ce qu'ils veulent. Un nez haut, au contraire, dresse comme par arrogance un mur entre les yeux.
Mais les convives de ce banquet ont voté et ont quand même décidé que Critobule était plus beau que Socrate. Socrate, évidemment, a accusé Critobule d'avoir corrompu les votants.
Sandrine Alexandre, professeure de philosophie.
Ah, Socrate est très laid. Il ne correspond pas au canon. Donc, parce qu'on peut dire de quelqu'un « Ah, il est laid », ça ne veut pas dire grand-chose en réalité. Mais là, en tout cas, il ne correspond pas du tout au canon esthétique de la Grèce, qui accorde une part très, très importante à ces canons esthétiques et est censé être articulé avec une vertu. Cette articulation du beau et du bon qui a quand même un ancrage physique.
Socrate était surtout connu pour passer son temps dehors, dans les lieux publics. Il circulait en ville, se promenait avec un air bizarre, hautain, et on se moquait de lui.
Tu te pavanes dans la rue en jetant tes deux yeux de côté. Sans chaussures, tu subis mille avanies et nous fais un visage redoutable.
On dit que son occupation favorite était d'interpeller les gens. Il les abordait, les interrogeait sur des questions très sérieuses, sur le bien, le mal, la vertu, la justice, la connaissance. Il les provoquait même. Et il avait la fâcheuse tendance de démontrer aux experts, aux caïdes de la politique, de la science, de la poésie, de la médecine, de l'artisanat, qu'en fait, ils ne savaient rien. Socrate se croyait d'autant plus autorisé à leur prouver leur ignorance que lui-même se prétendait totalement ignorant. Il ne respectait rien et ça énervait du monde. On essayait de le remettre à sa place, parfois avec brutalité. Mais il faisait le gros dos. Il faisait comme si il était indifférent aux coups et aux insultes qu'il recevait en réponse à ses provocations.
Comme souvent dans le cours de ses recherches, il discutait avec trop de violence. On lui répondait à coups de poing et en lui tirant les cheveux. Et la plupart du temps, il faisait rire de lui avec mépris. Et tout cela, il le supportait patiemment. D'où vient qu'après qu'il se fût laissé battre à coups de pied, quelqu'un s'en étonnant, il dit
« Et si c'était un âne qui m'avait donné une ruade, lui intenterais-je un procès ?»
Socrate était vraiment bizarre, paradoxal. Il pouvait mettre en colère ses interlocuteurs, mais il savait aussi séduire, charmer en parlant. Sa voix, sortie d'un corps qui ne payait pas vraiment de mine, pouvait avoir un effet extraordinaire. On aurait dit une musique. Il savait bien parler et généreux. Il savait apprendre aux jeunes gens à parler avec finesse, rigueur. Il était un mélange de drôlerie, de provocation et de grâce. Un de ses admirateurs, qui lui, paraît-il, était très beau, le jeune et tumultueux chef politique Alcibiade, déclare que Socrate valait les meilleurs musiciens. Il savait procurer le même plaisir, créer le même envoûtement, mais sans instrument, sans flûte ou syrinx, sans chanter, simplement en parlant. Il charmait par la voix et aussi par la beauté incroyable de ce qu'il disait. C'est ce que Platon, élève de Socrate, fait dire à Alcibiade dans son dialogue « Le banquet ».
Toi, Socrate, tu te distingues de Marsyas, le musicien légendaire, sur un seul point. Tu n'as pas besoin d'instrument. Et c'est en proférant de simples paroles que tu produis le même effet. Une chose est sûre, quand nous prêtons l'oreille à quelqu'un d'autre, même si c'est un orateur particulièrement doué, qui tient d'autres discours, rien de cela n'intéresse, pour ainsi dire, personne. En revanche, chaque fois que c'est toi que l'on entend ou que l'on prête l'oreille à une autre personne en train de rapporter tes propos, si minable que puisse être cette personne, et même si c'est une femme, un homme ou un adolescent qui lui prête l'oreille, nous sommes troublés et possédés. Pour ma part, messieurs, si je ne risquais pas de passer à vos yeux pour quelqu'un de complètement ivre, je vous dirais, sous la foi du serment, quelles impressions j'ai ressenties et ressens encore maintenant à l'écoute des discours de cet individu. Quand je lui prête l'oreille, mon cœur bat beaucoup plus fort que celui des corybantes et ses paroles me tirent des larmes et je vois un très grand nombre d'autres personnes qui éprouvent les mêmes impressions.
Socrate était double. Il était à la fois un énervant provocateur et un enchanteur. Il surprenait, provoquait, et par sa voix, il savait entraîner loin des certitudes admises. Il fallait accepter de se laisser prendre, de lâcher prise, et de se laisser guider par ses questionnements. On découvrait alors qu'on ne savait pas grand-chose, qu'on ne savait pas parler clairement de ce qu'on faisait tous les jours, ou de ce qu'on croyait certains bien établis comme conception de la vie, de la société, des dieux, du monde, de soi-même. Socrate ne questionnait pas au nom d'une certitude qu'il aurait déjà acquise et qu'il essaierait d'imposer à ses pauvres interlocuteurs ignorants. Il disait lui-même qu'il ne savait rien. Heureusement, disait-il, un dieu bienveillant l'orientait dans la vie. Tout seul, simple mortel, il n'aurait pas su. Ça ne voulait pas dire qu'un être humain ne pouvait rien savoir, qu'il fallait douter de tout. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y a pas de vérité, pas de sagesse possible. Ça voulait dire qu'il fallait interroger sans limite tous ceux qu'on croit savoir. Seuls les dieux savent quelque chose de certain. Les humains, eux, ne disposent que du langage et du questionnement pour tenter d'approcher quelque chose. Il fallait donc utiliser le langage à fond, dans sa forme la plus ouverte, la plus efficace, la discussion. En pratiquant ce dialogue incessant, dans la rue, dans le cercle des amis qu'il rassemblait, Socrate rappelait avec force que la vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut asséner tout seul, avec autorité, en employant un langage sûr de soi-même, définitif, construit une fois pour toutes, un langage qu'un individu savant pourrait adresser à des ignorants. La vérité se découvre pas à pas, dans un échange rigoureux, avec des personnes réelles, bien concrètes, pour qui elle est censée faire sens dans leur vie de tous les jours. Si, à la fin de l'échange, on ne trouve rien, aucune vérité, ce n'est pas grave. La discussion est déjà un bien en soi. Elle aura fait progresser. On se sera débarrassé d'idées simplistes, erronées et convenues. La vérité, au moins, aura été visée. C'est ce qui compte. La philosophie restera marquée pour toujours par cette démarche ouverte.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
Pierre Judet de la Combe parle de Socrate, le provocateur qui s'amusait à démontrer l'ignorance des experts.
Socrate, le questionneur infatigable, a mal fini. Athènes n'était pas vraiment disposée à accepter cette permanente remise en question de ses certitudes. Socrate a été condamné à mort par le vote d'un tribunal populaire. L'accusation portait sur son rapport à la religion et sur sa manière de traiter ses jeunes interlocuteurs.
Voici la plainte déposée sous serment par Mélétos, fils de Mélétos, du dème de Pitée, contre Socrate, fils de Sophronisque, du dème d'Alopéqué. Socrate enfreint la loi parce qu'il ne reconnaît pas les dieux que reconnaît la cité, et qu'il introduit d'autres divinités nouvelles. Et il enfreint la loi aussi parce qu'il corrompt la jeunesse. Peine requise, la mort.
D'après une tradition, la mort de Socrate fut votée par 30 voix d'écart, sur un total de 501 voix. Socrate fut emprisonné, et en prison, il mourut en buvant jusqu'à la dernière goutte un poison tiré d'une plante extrêmement toxique, la ciguë. Nous reviendrons sur ce procès et sur cette mort. Tout cela se passe en l'année 399 avant Jésus-Christ. Après une période politique extrêmement troublée, période qui suivait la défaite finale d'Athènes face à sa rivale Sparte après 30 ans de guerres successives. Athènes était une démocratie qui garantissait à ses membres la liberté de parole. Mais cette liberté avait des limites. Elle était politique. Dans l'Assemblée, On pouvait tout dire et on ne s'en privait pas. Mais il était très dangereux de s'en prendre activement à ce qui rendait possible l'entente entre les citoyens et au premier chef, le consensus concernant la religion.
Ô Zeus, le plus puissant des dieux, nous t'implorons, nous demandons ton aide. Zeus, grand Zeus, entends-nous, entends-nous, nous crions chez toi.
La religion, le culte des dieux, était partout, dans la vie privée et la vie publique. Elle rythmait le calendrier des institutions. Elle rassemblait dans de grandes cérémonies, dont le déroulement était fixé de manière très précise. Elle était visible dans les rites, les monuments, un peu partout dans la ville. La liberté démocratique, qui était réelle, n'était en rien opposée à la religion officielle. On était libre par rapport à la religion. On pouvait déclarer qu'on ne croyait pas aux dieux, que tout cela était de la fantaisie, tant que cela restait une opinion personnelle. Et affirmé comme tel, c'était répréhensible, ridicule, mais on laissait faire. Les dieux se chargeraient eux-mêmes de punir l'incroyant.
Nom de Zeus !
Mais si on voulait changer la religion, en introduisant illégalement de nouveaux dieux, en ne se contentant pas de professer des opinions personnelles, mais en cherchant à faire école, à convaincre et à former des jeunes gens, en les éloignant des croyances traditionnelles, cela devait être puni. Socrate a payé pour cela. Lui qui prétendait être guidé par un dieu personnel et qui passait beaucoup de temps à former des jeunes gens, et pas n'importe lesquels, plutôt des jeunes très huppés de l'aristocratie. Visiblement, il n'a pas été le premier intellectuel à subir la colère du peuple. Intolérance et démocratie populaire ne sont pas vraiment contradictoires. Il y a eu un précédent, pas très bien établi historiquement, mais qui fait frémir, tant il rappelle les attaques virulentes contre la science et les savants que mène actuellement dans une démocratie, celle des États-Unis d'Amérique, une autorité régulièrement élue par le peuple. On est vers l'année 430 avant Jésus-Christ, une trentaine d'années avant le procès et la mort de Socrate, juste avant que ne se déclenche la très longue guerre, ou plutôt les guerres, qui vont opposer Athènes et Sparte, jusqu'à la défaite finale d'Athènes. Un type qui s'appelait Diopeïtès, un nom bien religieux puisqu'il veut dire « qui a confiance en Zeus », a, paraît-il, fait voter par l'Assemblée du peuple une loi répressive qui tout simplement interdisait l'enseignement des sciences de l'univers. Elle interdisait tout enseignement concernant les phénomènes célestes.
Diopeïtès rédigea un décret en vertu duquel on poursuivrait par dénonciation publique ceux qui ne croyaient pas aux dieux et qui enseignaient des doctrines relatives aux choses célestes.
Ce décret, voté par l'Assemblée, instaure à Athènes un délit d'opinion. Il cherche à punir ceux qui ne croient pas aux dieux. Et il désigne très précisément l'un des modes de cette incroyance. Quand on professe un enseignement de science physique qui tend à nier la réalité des dieux traditionnels, si on dit par exemple que le soleil est de la matière brûlante et non pas un dieu. À travers ce décret, Diopeïtès, un devin, fervent défenseur des traditions religieuses, visait un grand savant, le philosophe Anaxagore. Et à travers Anaxagore, il visait le grand chef politique Périclès, le démocrate, que visiblement il n'aimait pas. Périclès était, nous dit-on, un élève et un ami de ce philosophe très connu. Anaxagore, le savant directement visé par ce décret, n'était pas un Athénien. Il venait d'Asie mineure, de la région où s'était développée depuis plusieurs générations une science de la nature. Cet immense mouvement intellectuel qui a ouvert la voie aux sciences modernes, a commencé avec Thalès à la fin du 7e siècle avant notre ère. Pour ce mouvement intellectuel, ce ne sont pas les dieux qui font tourner le monde et qui l'organisent, mais les éléments physiques qui le constituent, l'eau, la terre, l'air et le feu, et leurs relations. Ces relations, extrêmement complexes, donnent une forme à ce monde. Elles en font un cosmos ordonné. Selon Thalès, qui a lancé ce mouvement, ce n'est pas le dieu océan, comme chez Homère, qui est à l'origine des êtres, mais l'élément physique le plus transformable, le plus susceptible de prendre toutes les formes, de l'état aérien à l'état solide, à savoir l'eau. L'eau serait le principe de toute chose. Cette idée radicale a été à l'origine d'une très longue controverse qui a fait avancer la science dans un débat permanent. Anaxagore appartenait à ce courant. Il venait d'une ville qui s'appelait Clazomène, sur la côte ionienne de l'Asie mineure. Il fut, dit-on, le premier philosophe à venir s'installer à Athènes. Son but était de perfectionner le système philosophique qu'il recevait de ses maîtres, de manière à rendre plus rationnel, plus rigoureuse l'idée que le monde a une unité. Il disait alors des choses qui avaient de quoi choquer les tenants à Athènes de la religion traditionnelle. Par exemple, il fut le premier à dire que la lune ne brillait pas par elle-même, mais par la lumière qu'elle recevait du soleil. Quant au soleil, ce n'était pas ce qu'on croyait. Apprenant la chute d'un météorite, il disait qu'il venait du soleil, qui était une grande masse de pierre en feu. Cette masse était selon lui plus grande que le Péloponnèse. Comme il avait quitté sa patrie, la ville de Clazomène, en Asie mineure, on lui demanda si sa patrie l'intéressait vraiment. Il répondit en pointant le doigt vers le ciel.
« Ne blasphème pas, ma patrie m'intéresse, et même fortement. »
Il déclarait qu'il était né pour observer le soleil, la lune et le ciel. C'était un sérieux. On disait qu'on ne l'avait jamais vu rire ou même sourire. Ses idées, son explication de la chaleur du soleil, de ses mouvements dans l'éther, des mouvements des astres, de la lune, ses thèses sur la biologie, sur le corps, les perceptions, la reproduction, les embryons, tout cela était contraire aux opinions communes. Le décret qu'avait fait voter Diopaïtès, le tradit religieux convaincu, permettait de mettre en accusation Anaxagore, qui, pensait-on, ne reconnaissait pas les dieux traditionnels, puisque chez lui, tout dans le monde était affaire de relations entre le chaud, le froid, le sec et l'humide. Anaxagore se permettait de donner un enseignement qui se voulait scientifique sur les choses célestes. On ne sait pas vraiment comment s'est déroulé le procès, mais ça s'est mal passé. Des adversaires politiques de Périclès ont attaqué Anaxagore devant un tribunal populaire. Périclès, fulgurant orateur, l'a défendu et lui aurait évité le pire. Anaxagore a été condamné à une amende et à l'exil. Selon une autre tradition, dont on ne sait pas ce qu'elle vaut, Anaxagore aurait été condamné à mort, comme le sera Socrate. Alors qu'Anaxagore attendait son exécution en prison, Périclès se serait adressé au peuple et aurait sauvé son professeur. Il se serait donné lui-même en exemple de la justesse de l'enseignement professé par son maître, Anaxagore.
Périclès se présenta et demanda si l'on avait quelque chose à lui reprocher sur la vie qu'il menait. « Rien, lui répondit-on. »«
Eh bien, moi,
dit-il,
je suis l'élève de cet homme. Ne vous laissez donc pas entraîner par des calomnies à tuer cet homme, mais écoutez-moi et relâchez-le. »
Et Anaxagore fut relâché.
Anaxagore a trouvé refuge en Asie, près de Troie, dans la ville de Lampsaque. Il y fut honoré, mais il ne supporta pas l'affront qu'il avait subi à Athènes. On dit qu'il se suicida.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Baby, let me dance away.
Pierre Judet de la Combe évoque les risques encourus par les intellectuels à Athènes, devant les tribunaux et au théâtre.
Athènes était en fait la seule ville grecque qui pouvait persécuter ainsi démocratiquement les intellectuels. Le procès d'Anaxagore, quelles qu'étaient les raisons politiques qui l'ont motivé, c'est comme si Einstein avait été traduit en justice à cause de ses théories. Ce procès rappelle aussi celui de Galilée, condamné par l'Église pour sa conception du système solaire. On n'est pas loin d'Anaxagore. Mais à l'époque, à Athènes, il n'y avait pas d'orthodoxie scientifique sur le soleil. Il n'y avait pas une Église qui se pensait détentrice de la vérité. Il y avait des mouvements d'opinion populaire qui changeaient. Et on pouvait mal tomber selon les humeurs des assemblées et des tribunaux, comme Anaxagore et d'autres, et plus tard, comme Socrate, condamné à mort. On voit dans cette affaire pointer un reflet lointain du populisme de l'administration américaine actuelle, qui déclare illégitime les recherches scientifiques sur le réchauffement de la planète, sur les discriminations dans la société. Et nous, si rapides à nous moquer de Trump et de son obscurantisme, pourrions-nous imaginer chez nous des pouvoirs publics qui ne tiennent pas compte des conclusions de la science sur l'amiante, sur le chlordécone, ou sur l'impact sanitaire de telle ou telle substance chimique autorisée et répandue? On le peut, et ce n'est pas de l'imagination.
Vous avez une leucémie, monsieur Villeneuve. C'est un cancer du sang.
Ça se soigne?
Il y a des traitements, oui.
En gros, je suis mal barré.
Docteur, je voulais vous demander, est-ce que vous pensez que ce qu'il a, Michel, c'est à cause des produits qu'on utilise à la ferme?
Sur ce plan-là, je ne peux pas me prononcer, madame.
Une petite dizaine d'années après le procès d'Anaxagore, la science fut durement attaquée, pas en justice cette fois, mais par l'art, par la comédie. Aristophane, le poète, qui n'y allait pas de main morte quand il s'agissait de s'en prendre à des personnes ou à des professions qu'il jugeait arrogantes et prétentieuses, met en scène un Socrate qui a un mauvais rôle. L'attaque ne visait pas une condamnation, mais le rire. On trouve cette attaque dans la comédie d'Aristophane, Les Nuées, jouée en l'an 423 avant Jésus-Christ, lors du grand festival des Dionysies. La pièce a été plutôt mal jugée. Elle a été classée 3e sur 3. Une légende dit que Socrate assistait à la pièce. Il se serait mis debout pendant la représentation pour montrer au public comment était le vrai Socrate face à celui qui était représenté sur scène de manière si négative. Comme d'habitude, Aristophane n'a pas fait dans la dentelle. Il a imaginé un Socrate, maître d'école, qui, contre de l'argent, enseigne aux jeunes gens la compréhension de la nature et surtout qui leur enseigne à utiliser le langage de manière libre, de façon à tromper tout le monde et à faire croire que ce qui existe, en fait, n'existe pas et ce qui n'existe pas, existe.
Jean-Pierre Vernon, helléniste.
Dans le portrait qu'Aristophane trace de Socrate, il y a effectivement l'écho de ce que l'opinion publique, le bon peuple, pensait de Socrate.
Ah oui.
C'est-à-dire un espèce d'hurluberlu, d'original, qui refusait de s'occuper de politique, qui n'était jamais d'accord avec personne. Il avait un certain nombre de... Même le mot « disciple », il n'était pas disciple, car il se refusait à considérer qu'il avait un enseignement à donner comme un maître à des élèves. Ce qu'il disait, c'est qu'il voulait éveiller l'inquiétude dans les âmes. Et il éveillait cette inquiétude sur tous les plans. Il l'éveillait pour les affaires politiques, comme aussi lorsqu'il s'agissait de définir effectivement la piété ou ce qu'on appelle la religion.
Aristophane a inventé un personnage mixte, avec un peu du vrai Socrate et beaucoup des intellectuels de son époque. Les savants comme Anaxagore et autres philosophes de la nature, et surtout les sophistes, qui disaient que tout est langage et qu'en parlant, on pouvait faire comme si la réalité n'existait pas. Ça vaut la peine de séjourner un peu dans cette comédie, Les Nuées. Elle est injuste envers Socrate. Mais elle dit bien ce que pouvaient être les attentes populaires ou même populistes vis-à-vis des intellectuels. Ça ressemble pas mal à aujourd'hui. Le personnage central de la pièce est un abruti, un vieux grognon, paysan, en fait plus rusé qu'il n'y paraît, qui se plaint. Il a un nom qui est tout un programme, Strepsiade, c'est-à-dire celui qui tourne, qui change. Il sera moins borné que prévu. Ce Strepsiade a épousé une jeune épouse, issue de l'aristocratie. Ils ont un fils qui a des goûts de luxe et qui adore les chevaux de course. Le père s'est largement endetté en comblant les désirs équestres de son fils. L'échéance pour ses dettes approche, il faudra payer. Le vieil homme cherche le moyen d'éviter cette catastrophe. Il va recourir à la philosophie. Il a entendu dire que la philosophie, et notamment celle de Socrate, non seulement connaît les principes véritables de tous les êtres, mais sait, par le langage, faire apparaître ou disparaître les choses. Or, ce Socrate a son école juste à côté de chez Strepsiade. Strepsiade va essayer de convaincre son fils, Phidippide, l'amoureux des chevaux, d'aller suivre des cours chez Socrate. Comme ça, ce fils saura prouver en parlant que les dettes de son père n'existent pas. Strepsiade présente à son fils l'école de Socrate.
Tu vois cette petite porte et cette petite maison ?
Je vois. Mais en vrai, mon père, c'est quoi ?
Des âmes savantes. C'est le Méditorium. Là habite la communauté des hommes qui discourent sur le ciel et persuadent qu'il est une braisière. Et qu'elle est tout autour de nous. Et que nous, nous sommes des charbons. Ces gens enseignent, si on donne de l'argent, à vaincre que le discours soit juste ou injuste.
La supériorité des membres de cette école est qu'ils savent parler. Ils peuvent dire avec assurance des choses incroyables. Par exemple, que le cosmos, avec la voûte céleste pleine de feu, a la forme d'une braisière, c'est-à-dire d'un four en forme de cloche de terre cuite. Les hommes seraient comme des charbons, avec un jeu de mots sur charbon, anthrakes, et hommes, en grec, les andres. Le langage de ces savants est tellement libre, imaginatif. Pour parler du monde physique, du cosmos, il invente une image improbable, celle d'un four à pain. Actuellement, on dirait simplement que le langage scientifique a recours à un modèle. Mais ce modèle est tellement incroyable, éloigné de ce qu'on voit, la cloche d'un four à pain, pour dire le ciel, qu'on peut avoir l'impression que les savants s'autorisent à dire n'importe quoi et qu'ils savent faire passer leur invention pour la réalité. Strepsiade, fasciné, se dit que si on parle comme eux, on peut l'emporter dans n'importe quelle discussion. Le fils, évidemment, refuse d'obéir à son père et de fréquenter cette école. Les élèves y ont tous le teint blême, des têtes de décavés tellement ils étudient. Le père décide alors d'y aller lui-même. Il frappe à la porte de l'école. Un disciple lui ouvre et déclare solennellement qu'il ne peut parler qu'aux initiés. Strepsiade insiste, dit que précisément il veut devenir disciple. Le disciple accepte alors de lui révéler une découverte récente de Socrate, tellement elle est merveilleuse. Elle concerne la zoologie. La question était :
les moustiques chantent-ils par la bouche ou par le croupion ?
Socrate, selon le disciple, a trouvé la solution. Le moustique a un intestin très serré. L'air passe par ce canal étroit, puis résonne une fois libéré. C'est donc la solution du derrière qu'il faut retenir. Strepsiade exulte. Il est sûr que s'il s'instruit dans cette école, il pourra gagner tous ses procès en déjouant toutes les accusations contre lui.
Trompette, donc, et le cul des moustiques. Oh, le trois fois bienheureux de la tripe expliquée. Comme l'accusé, vite sera hors de cause s'il connaît de bout en bout la tripe du moustique.
Strepsiade décide alors de devenir le disciple de Socrate. Socrate va-t-il aider Strepsiade dans son sombre projet de tromper la justice ? Les dieux vont-ils laisser faire ? Vous le saurez peut-être avec le prochain épisode qui nous montrera un Socrate inconnu et étonnant.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurence Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. Bonne journée sur France Inter.